6h03. Nous sommes déjà jeudi quand même, la semaine qui avance rapidement. Jeudi le 12 septembre. Et on a un ciel généralement nuageux ce matin. C'est autour de 13 degrés. On prévoit un dégagement. Donc, le soleil va s'installer avec des vents légers et une belle journée en perspective. Ce soir et cette nuit, ciel dégagé avec un minimum de 8. Et demain, vendredi, c'est du soleil avec un maximum de 21, un peu plus nuageux durant la soirée. Pour l'instant, prévision de fin de semaine. Samedi, ça s'annonce gris avec de la pluie intermittente. Alors que dimanche, soleil et nuages. Et dans les deux journées, on prévoit un maximum de 21 degrés. Puis le début de la semaine prochaine, là, si on regarde à long terme, on prévoit du soleil et des températures vraiment d'été, là, 24, 25 et 26 degrés. Alors, la nouvelle qui fait la une ce matin, c'est bien sûr cette décision de la juge Christine Beaudoin de la Cour supérieure du Québec qui vient d'élargir l'aide médicale à mourir. Et la première chose qu'on doit constater, c'est que cette décision découle d'une bataille menée par deux personnes lourdement handicapées, Jean Truchon et Nicole Gladue. Monsieur Truchon est atteint de paralysie multiple depuis sa naissance. Il a perdu l'usage de son bras en 2012. Également, Madame Gladue, elle, souffre d'une série de problèmes de santé et elle est atteinte d'une maladie dégénérative qui est incurable. Donc, voilà deux personnes qui disent, nous souhaitons, et c'est un choix, ce sont des gens qui sont lucides, nous souhaitons obtenir l'aide médicale à mourir et on leur refuse cette aide médicale à mourir en raison de la notion qui est dans la loi d'une mort prévisible. Et ce que vient dire la Cour, c'est que cette notion-là vient restreindre leurs droits et décide donc de casser la loi, permet à ces deux personnes d'obtenir l'aide médicale à mourir compte tenu de leur état, tout en répondant aux autres critères de la loi. Et ça, c'est important de le dire. Et en disant au gouvernement, à moins qu'il y ait un appel, ben, vous avez, je pense, 6 mois pour procéder au changement, pour rendre la loi conforme à la décision qui a été rendue par la Cour. Et je pense que c'est important d'insister sur certains faits, parce que j'entends depuis hier toutes sortes de réactions. D'abord, l'aide médicale à mourir, c'est un choix. C'est pas une obligation. Et quand je vois les gens qui opposent l'aide médicale à mourir à des soins palliatifs ou à d'autres traitements de fin de vie, en disant qu'il faut choisir ces traitements-là et qu'il faut soulager la souffrance, je rappelle juste que c'est une décision qui est personnelle. Et il y a des gens qui, de façon tout à fait lucide. Et c'est pas fait à la légère, là. C'est évalué par des médecins. Il y a un délai entre le moment où vous prenez la décision, le moment où l'aide médicale est appliquée. Un des problèmes qu'on a au Québec, avec cette notion de mort prévisible, c'est que souvent la personne mourait avant, ou encore que la personne n'était plus capable de donner son consentement. On m'a raconté des cas où le médecin commençait à faire la première injection, puis le patient mourait pratiquement. Alors, donc, ce que le jugement vient dire, c'est que cette notion-là de mort prévisible ne doit pas être considérée en vertu de la décision de la Cour suprême, que la loi québécoise est donc trop restrictive. Et ça nous amène à l'autre débat sur les gens qui ont des problèmes, par exemple, cognitifs graves, maladie, Alzheimer, démence. Est-ce qu'on peut donner son consentement quand on est lucide, donc au préalable? Si je me retrouve dans telle situation, j'aimerais obtenir l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est peut-être plus complexe à établir. T'sais. À quel moment tu donnes le consentement? À partir de quel symptôme ou quel stade de la maladie tu veux obtenir l'aide médicale à mourir? Mais donc, c'est quand même une décision importante qui a été rendue. Là, on a vu la prudence à Québec, en disant on va regarder le jugement puis on commentera plus tard. Mais c'est sûr que là, il y a une possibilité d'appel. Alors, est-ce que Québec va décider d'en appeler? Est-ce que le fédéral va en appeler de cette décision-là? J'espère juste qu'on puisse permettre aux gens, quand ils arrivent à un moment dans leur vie, à prendre une décision et que cette aide leur soit apportée. Et moi, je respecte les gens qui veulent pas l'aide médicale à mourir. Puis d'abord, on n'a pas une augmentation spectaculaire du nombre de cas. Ça demeure un faible pourcentage des gens qui ont recours à l'aide médicale à mourir. Mais est-ce que ce choix-là peut exister dans le respect? Puis on peut tous faire une réflexion, puis on peut tous changer d'idée. Puis il y en a d'autres qui préfèrent se tourner vers des soins palliatifs ou d'autres soins de fin de vie. Bien, c'est leur choix. Mais tu sais, cette espèce de perception qu'ont certains groupes, qu'on est en train d'imposer, de d'euthanasier des Québécois malades ou handicapés, là, on n'est pas dans ça du tout, du tout, du tout. Et c'est pas ce jugement-là qui vient non plus le garantir. D'autre part, parlons de la campagne électorale. Alors, hier, c'était le lancement, puis les discours, M. Trudeau, M. Scheer, M. Blanchet, tout le monde. Quels sont les éléments de l'actualité qui se sont invités dans le débat de cette première journée? Il y a la question des signes religieux. Et vous savez quoi? Quand j'écoutais M. Trudeau hier qui disait « Je suis contre la loi québécoise sur la laïcité, c'est pas dans mes valeurs, puis c'est pas dans les valeurs du Parti libéral du Canada », c'est pas une surprise. La question la plus importante, si vous êtes réélu, allez-vous vous joindre à la bataille de contestation devant les tribunaux de la loi québécoise sur la laïcité? Il ne répond pas. C'est sûr qu'il ne répond pas. Parce que il, pas fou, là, il regarde l'appui dans les sondages que les Québécois donnent à la loi sur la laïcité. Alors, M. Trudeau a besoin du Québec s'il veut garder le pouvoir. Et il n'ira pas prendre une position de principe en disant « Oui, je m'engage à aller contester la loi » ou encore « Cette loi-là est inacceptable à mes yeux et je pense qu'il faut aller se battre devant les tribunaux et faire reconnaître, en fait la casser, et faire reconnaître toute cette question-là de la liberté de porter les vêtements qu'on veut puis qu'il ne peut pas y avoir de restrictions. » Alors donc, ça va être intéressant à suivre. Je ne sais pas si durant la campagne, il va être obligé de se commettre un peu plus. Mais on a beaucoup parlé de ça, le dossier de SNC-Lavalin aussi. Alors, c'est une campagne qui est assez rapide quand vous regardez l'échéance, qui est le 21 octobre prochain, à travers tout ça, les débats. Mais il n'y a pas de thème dominant, je le disais hier matin. Il y a des questions environnementales, il y a évidemment la question de la laïcité, l'intégrité. Mais on ne peut pas dire là, qu'il y a vraiment là, un thème qui va polariser la course électorale. Et on voit que les autres partis sont en mode survie. Je pense au NPD. Dans le cas du Bloc québécois, il y a des gros défis aussi. Là. Ça semble aller mieux dans ce qu'on peut percevoir dans les sondages. Mais où va aller le vote néo-démocrate? Puis les conservateurs ont une base. Puis une base qui est quand même un noyau assez fort, plus faible au Québec, mais dans certaines régions du Québec, en bonne position. Campagne électorale qui s'annonce quand même assez intéressante. On va retrouver Marc pour regarder un peu les premiers obstacles du matin. Parfait. Regardons les autres nouvelles. D'abord, Geneviève Guilbeault a offert ses excuses hier à ses anciens collègues de travail, ceux et celles qu'elle a congédiés, en disant et en insistant sur la place publique, c'est moi qui ai pris la décision, c'est moi qui les ai virés. Donc, elle dit que c'était pas la bonne façon de faire, que les termes choisis n'étaient pas adéquats, et elle s'excuse si elle a blessé des gens. Ça, c'est toujours la phrase classique, là. Et donc, je le ferai plus. Puis ça arrive au moment où on a fait un portrait d'elle assez, disons, particulier. Je pense, entre autres, à l'essor dans la presse plus, puis le mémérage, puis les règlements de compte. Puis c'est sûr que quand tu commences à, disons, planter du monde sur la place publique, le placotage commence. Et sur son attitude, sur son comportement. Mais bon, c'est un dossier qui est fermé. Moi, le plus important concernant Mme Guilbeault, c'est la suite des choses à l'UPAC, c'est la suite des choses avec la Sûreté du Québec. On a un problème de police au Québec. Puis j'en fais pas une obsession, mais c'est important de ramener ça sur la place publique, dans le débat. Et moi, je n'achète pas sa thèse du chantier. Je trouve que c'est encore une fois une façon de nous faire passer une couleuvre. Là. Voyons donc, un chantier. Et on a des problèmes majeurs, je le répète, au DPCP, malgré le discours de notre invité cette semaine, Maître Archer, qui dit que tout va bien. Ben non, tout va pas bien au DPCP. Là. Si vous parlez à des procureurs, puis je parle pas à des fantômes, je veux juste rappeler ça aussi. Là. Alors, il y a visiblement un problème au niveau des enquêtes policières, au niveau de la direction policière au Québec, que ce soit à la Sûreté ou encore à l'UPAC. Et on s'attend à des actions. Là, ça fait un an que le gouvernement est élu, là, et tant que ça bouge un peu, là, ils sont actifs dans d'autres domaines, mais disons que la gestion policière, ça fait dur leur affaire, là. À part de me dire qu'il y a une soixantaine de candidats pour le poste à l'UPAC et qu'on va rendre une décision d'ici quoi, là, je pense, un mois. C'est quoi l'orientation? Comment on explique la crise actuelle? Trois bosses à la SQ en moins d'un an. Est-ce quelqu'un qui peut penser que ça représente un certain problème? Alors, oublions les chicanes internes de Mme Guilbeault, là, puis supposément des crises de jalousie face à Jolin Barrette, puis bon, peux-tu passer aux affaires, puis commencer à régler les dossiers? En tout cas, donner une indication qu'il va se passer quelque chose. Parlons maintenant de la valeur de votre maison si vous habitez à Montréal. Hier, on a eu le tableau complet et ce sont de juteuses augmentations de valeur. Alors, on regarde ça selon les arrondissements, là. Dans le sud-ouest, c'est 17 %. La moyenne à Montréal, là, c'est pas loin de 14 %. Et là, vous avez des hausses à Westmount de 20 %. Dans l'ouest de l'île, 17, 23, 25 %. Et vous avez des arrondissements, par exemple. Prenons le cas de Verdun, c'est 20 % aussi, pas loin, là, d'augmentation. Alors, c'est sûr qu'il n'y aura pas une augmentation du compte de taxes de 20 %. Hier, M. Doret et en fait, d'autres de l'administration Plante ont dit « Faites-vous-en pas, ayez pas peur. Ça n'augmentera pas de plus de 2 %.» Ben, je ne les crois pas. Peut-être que je suis devenu trop sceptique. Mais entre ce qu'on dit officiellement, puis quand vous recevez votre compte de taxes, pour toutes sortes de raisons, ça augmente de 3 puis de 4 %. Et je me rappellerai toujours les propos de M. Doret, qui avait dit, et je résume, bien, une augmentation d'une couple de 100 piastres, il n'y a rien là, c'est le prêt payé pour être à Montréal. Puis en gros, là, si vous n'êtes pas capable de payer une couple de 100 piastres de plus par année, vous n'avez pas les moyens de vivre à Montréal, bien, c'est pratiquement dire « allez vivre ailleurs ». Il avait regretté les propos après. Mais c'est ça la mentalité pareille. Ce qu'il a dit la première fois, c'est ce qu'il pense. Puis la ville a des besoins. Puis si tu as les moyens d'avoir une grosse maison, là, une grosse maison, là, c'est plus un château. Là, des maisons à Montréal, là, si vous êtes un jeune couple, l'accès à la propriété est assez complexe. Alors, il ne faut pas s'étonner de voir un déplacement, encore une fois, vers la banlieue, de voir des jeunes familles s'établir ailleurs. Puis on le voit avec tous les développements qui se font, que ce soit du côté de la couronne nord puis de la couronne sud. Alors, j'ai bien hâte de voir l'augmentation réelle du compte de taxes que vous allez recevoir dans les prochains mois. Parce que, sincèrement, là, et ça pose toute la question, qui a les moyens de vivre à Montréal? Il y a comme les extrêmes. Tu as des secteurs où les gens pauvres ont des logements en mauvais état, ou en tout cas, il y a des quartiers où ça fait pitié, puis que les gens qui sont là, c'est vraiment des gens pauvres, souvent issus de l'immigration, ou encore des gens qui sont plus vieux, qui ont profité du marché immobilier et qui arrivent quand même à vivre ici, en ville. Mais si vous êtes un jeune, vous dites, ma première maison, là, va être compliqué. Pas facile de pouvoir acheter comme ça. Alors, Montréal qui s'engage donc à limiter les hausses de taxes. À part ça, il y a cette décision qui a été rendue par la Cour d'appel concernant le mariage. J'en parle ce matin parce que le droit de la famille, c'est un autre dossier qui traîne, ça. Le droit de la famille actuelle est périmé. Il est temps qu'il y ait une réforme parce qu'en 2019, puis c'était vrai en 2018, puis c'était vrai en 2017, la notion de famille, la notion de mariage n'est plus ce qu'elle était. Il n'y a pas juste un ou deux modèles. C'est pas mal plus complexe que ça, puis on l'a vu avec un paquet de décisions. Alors là, il y a un monsieur qui dit, « Moi, je suis croyant et je veux me marier devant l'Église. Je ne peux pas m'imaginer vivre en couple avec quelqu'un si je ne suis pas marié. » Parfait, c'est son choix, ses convictions. Mais en même temps, le fait que le mariage religieux implique des obligations légales, ça vient restreindre mon choix. La Cour d'appel lui a dit non. Tu veux te marier, parfait. Choisis la forme du mariage devant l'Église. civile, mais le gouvernement a le droit de prévoir entre les époux des responsabilités, des obligations. Et ça, ça fait partie des prérogatives de l'État. Et c'est vrai que pour ce qui est des conjoints de fait, à moins qu'il y ait des enfants ou un contrat, il n'y a pas ce même type d'obligation. Et ça, c'est comme un problème. Et là, on peut penser au dossier Éric et Lola, puis toutes ces questions-là. Là. Est-ce que quand je suis conjoint de fait avec quelqu'un, puis que je n'ai pas d'entente précise, est-ce que j'ai des obligations envers le conjoint? Et là, je sais qu'il y en a des gens qui disent « Hey, wow, j'ai fait le choix de ne pas me marier, là, je ne viendrai pas m'imposer le partage du patrimoine ou des pensions alimentaires. » Je sais que c'est un débat qui soulève beaucoup de passion. On va y revenir un peu plus tard aussi dans l'émission ce matin. Il y a le Collège des médecins du Québec qui propose et qui est d'accord en fait avec l'instauration, comme pour ce qui est de l'assurance automobile, de non-responsabilité. On a vu tout le dossier de la Presse Plus concernant les erreurs médicales et aussi la conséquence, c'est-à-dire des délais qui s'étirent devant les tribunaux et des gens qui se battent contre le système puis les experts qui témoignent l'un après l'autre. Alors, il y a le secrétaire du Collège des médecins, Yves Robert, qui dit qu'on devrait avoir justement un système qui fait que vous n'avez pas à aller vous battre entre avocats devant le tribunal. Et si on évalue la faute, puis il y a une façon d'établir le niveau de responsabilité puis d'établir un dédommagement qui soit plus rapide d'abord puis qui soit sans doute équitable. Là, je comprends qu'on peut discuter, là. Mais est-ce que ça, c'est pas préférable, justement, à aller se coltailler devant un juge, puis essayer, puis ça prend des années, d'obtenir gain de cause. Il y a également le fabricant de l'oxycontin qui a fait une entente de plusieurs milliards. La société Purdue Pharma qui a réglé. La société est supposée aller en cours et elle est poursuivie, d'ailleurs, par je ne sais plus combien d'États américains, par avoir développé une stratégie de marketing de pilules pour que les gens deviennent de plus en plus des consommateurs de ces antidouleurs, et également deviennent donc dépendants. Alors, on parle ici quand même d'un règlement qui pourrait atteindre 12 milliards et, au total. Alors, c'est quand même majeur, mais la compagnie a décidé de régler le cas parce que c'est vrai, puis la preuve est absolument accablante sur la façon dont ils ont poussé, ont influencé, pour ne pas dire soudoyé des médecins, à prescrire ces médicaments. Et puis un mot sur la cigarette électronique, le vapotage, ça commence à faire jaser beaucoup. Et l'administration Trump qui envisage d'interdire les cigarettes aromatisées, qui s'adressent principalement à des adolescents, en raison des nombreux problèmes potentiels de santé. On sait que les cas se sont multipliés, on en parlait hier matin, puis ça aussi on va y revenir tantôt dans l'émission. Mais là, vous avez comme deux réactions possibles. Si vous interdisez ce type de cigarette électronique, est-ce que vous ouvrez la porte à un marché parallèle? Est-ce que des jeunes vont se tourner plus vers la cigarette conventionnelle? Maudite bonne question. Mais c'est clair que vapoter, c'est pas sans risque. Là, comment tu mesures le risque? Moins pire qu'une cigarette, évidemment, classique, mais avec quand même un potentiel, si vous voulez... dangereux, qui reste à déterminer et à évaluer correctement. On fait la pause, 6h23 minutes. La métropolitaine, monsieur.